Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais revenir sur la retraite à 60 ans, puisque c'est un thème qui revient dans les discussions et on nous dit que c'est possible, on nous dit que c'est pas possible. Eh bien, je vais éplucher pour vous un peu le sujet. Alors, je vais reprendre d'abord plusieurs arguments tout à fait mensongers par rapport à la situation sur cette question de la retraite. Dans les intox, comme argument pour reculer l'âge de départ en retraite, il y a celui de l'évolution de l'espérance de vie, on vivrait plus longtemps. Eh bien, c'est tout à fait faux officiellement. Dans les statistiques, depuis 10 ans, donc depuis 2014, la France, que ce soit du côté des hommes ou des femmes, ne progresse plus du côté de l'espérance de vie. On est sur un palier depuis maintenant 10 ans et il n'y a rien qui indique d'ailleurs que ce palier va se débloquer dans le sens de la progression. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas d'évolution de l'espérance de vie en France. On le savait déjà lors du recul de la retraite de 62 à 64 ans. Mais maintenant, eh bien, ça faisait quelques années déjà qu'on était sur le plafond, enfin sur le plancher, pardon, et on y est toujours. Une deuxième intox, c'est celle de considérer que la population qui travaille va aller jusqu'à l'âge légal de départ en retraite. Et là, on voit que c'est tout à fait faux. C'était déjà un peu faux avec la retraite à 60 ans. Ça l'était déjà beaucoup plus avec la retraite à 62 ans. Et ça l'est nettement plus avec la retraite à 64 ans, où la majorité de la population laborieuse ne va pas, de toute façon, faire le raccord entre la population active, si l'on peut dire, et la population en retraite. Alors, je vais citer trois grandes catégories de travailleurs et de voir quel est leur sort à partir de 59 ans. Je ne dis pas à partir de 62 ou 63, je dis à partir de 59 ans. Eh bien, si on prend les ouvriers de la manutention, eh bien, 56% d'entre eux ne vont pas à la retraite, et notamment ne vont pas à la retraite parce que déjà à 59 ans, il y en a 56% qui sont hors circuit, si l'on peut dire, dont 31% pour des raisons de santé. Donc plus de la moitié des ouvriers de la manutention à compter de 59 ans sont déjà hors circuit essentiellement pour des raisons de santé. Alors, j'ai regardé dans les statistiques officielles pour les ouvriers du gros œuvre du BTP. Eh bien, pour eux, à compter de 59 ans, 49% ne peuvent plus être au boulot, dont à peu près la moitié, 24%, pour des raisons de santé. Et j'ai regardé aussi pour les aides à domicile. Eh bien, pour les aides à domicile à compter de 59 ans, 43% d'entre elles sont sorties du boulot et 22% pour des raisons de santé. Donc, on voit que pour les métiers les plus difficiles, déjà à compter de 59 ans, il y en a une très forte proportion qui ne sont plus en capacité d'être au travail. Alors, si on regarde autrement maintenant, c'est-à-dire toutes professions confondues, si le taux d'emploi, c'est-à-dire le pourcentage de travailleurs au boulot à 55 ans est encore de 80% à 55 ans, eh bien ce chiffre va chuter considérablement puisqu'il va arriver à 52 ans à l'âge de 52% pardon, à l'âge de 60 ans. Donc on peut dire que la moitié de la population, eh bien de toute façon, sort de l'épisode actif, si l'on peut dire, à 60 ans. Et si on regarde à l'âge de 64 ans, eh bien là, ça chute considérablement puisqu'on est arrivé à 13%. Donc, on voit que de parler de recul de l'âge de la retraite, c'est pas forcément la meilleure façon d'expliquer les choses, c'est plutôt de rendre une retraite inaccessible, tout simplement. Alors j'ai regardé avec d'autres critères et je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé. Alors c'est quoi l'espérance de vie en bonne santé ? C'est l'âge officiel où on n'a pas déclaré de handicap. Donc l'âge où on vit sans handicap en moyenne. Eh bien l'âge où on vit sans handicap en moyenne en France, il est de 62 ans, ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé. Et il est de 64 ans pour les femmes. Un chiffre qui est d'ailleurs stable depuis des années. Ce qui veut dire, si l'on suit bien, mon raisonnement, c'est que la majorité de la population en France, ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, eh bien finalement, elle a cette espérance de vie en bonne santé inférieure pour les hommes de 2 ans à cet âge de départ légal de la retraite à 64. Et pour les femmes, la moitié d'entre elles subissent un handicap officiel déjà à l'âge de 64 ans. Donc on voit que c'est considérable, cette usure anticipée, et que cette retraite à 64 ans, finalement, concerne bien peu de monde. Alors, j'ai comparé ensuite l'âge des décès en moyenne par tranche d'âge. Alors j'ai pris la tranche d'âge des 40-44 ans, donc sur 5 ans. Et j'ai pris en comparaison la tranche d'âge des 60-64 ans sur 5 ans également. Eh bien, je me suis aperçu que sur ces tranches d'âge de 5 ans, hein, c'est-à-dire à la quarantaine et au-delà de la soixantaine, eh bien, il y a 20 fois plus de décès, c'est-à-dire de 31 000 hein, exactement, dans la tranche d'âge des 60-64 ans. Donc 20 fois plus de probabilité de décéder au-delà de 60 ans, entre 60 et 64 ans, ce qui me fait penser à la formule qu'on utilisait dans le temps jadis pour dénoncer cette retraite inaccessible, qu'on appelait la retraite pour les morts. Alors je continue sur l'intox. Oui, mais en Europe, les travailleurs iraient à 65, voire 67 ans ailleurs. Et pourquoi pas la France ? Ce serait pas normal que la France n'y aille pas non plus. Alors d'abord, c'est comparer pour le pire. Ce serait bien de comparer pour le meilleur. Ce serait quand même intéressant. Mais de toute façon, c'est faux. C'est faux puisque pour les mêmes raisons que je viens d'expliquer, il y a un âge légal théorique pour lequel la grande majorité de la population n'accède pas à la retraite, en tout cas, et c'est le cas de l'Italie. Alors l'Italie, on nous dit oui, mais l'âge légal de départ en retraite est de 67 ans. C'est exact, c'est l'âge légal. Mais en réalité, les gens n'y vont pas. Ils n'y vont pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce qui n'est pas dit, c'est qu'il y a d'autres systèmes de départ en retraite en Italie que je ne peux pas détailler puisque c'est un peu compliqué pour partir avant 67 ans. Mais de toute façon, pour des raisons de santé essentiellement, la proportion de gens qui travaillent encore entre 60 et 69 ans, c'est le seul chiffre dont on peut disposer dans cette fourchette, en Italie, eh bien, il est de 28%, mais 28% encore petit boulot inclus. Parce que vous savez que maintenant, on peut partir en retraite et compte tenu du fait qu'il n'y a pas grand-chose à mettre dans la gamelle, essayer de continuer avec des petits boulots. Donc, une petite minorité de travailleurs qui vont finalement aller jusqu'à 67 ans en Italie. Donc, ce n'est pas la référence, c'est simplement un texte sur le papier qui dit retraite à 67 ans, mais c'est pour pratiquement pas grand monde. Alors j'ai regardé dans un autre pays, la Grèce, où là aussi, on nous indique une retraite à 67 ans. Et quand on regarde dans les statistiques en Grèce, seulement 13% des 65-69 ans sont au boulot. C'est-à-dire que c'est encore le même phénomène que pour l'Italie et que d'ailleurs pour la France. Une retraite sur le papier, mais une retraite pour laquelle la grande majorité de la population, finalement, ne va pas accéder. Voilà ce que je voulais vous dire sur les questions de démographie et d'accès véritable à la retraite. Et puis, il y a encore une autre, ce que j'appelle une autre escroquerie. C'est de raisonner d'abord sur ce qu'on appelle la démographie, c'est-à-dire le rapport de la population active sur la population retraitée, et pas raisonner sur la quantité de richesse produite par le pays. Alors la démographie, certes, a son rôle à jouer, mais c'est un rôle en fait secondaire. Le premier rôle à regarder, la première chose à regarder, c'est la question de la répartition des richesses. Alors pour cela, il y a un indicateur en France, hein, et dans le monde d'ailleurs, ce qu'on appelle le produit intérieur brut par habitant, c'est-à-dire la richesse créée par habitant. Alors en France, elle a tout simplement, ce PIB par habitant, il a tout simplement doublé en 30 ans. Donc si on prend nos 70 millions d'habitants, hein, c'est pas seulement les travailleurs, c'est tous les habitants, eh bien, on est aujourd'hui, enfin le dernier chiffre utilisable, il était de 38 000 euros par habitant de richesse produite en France, et il était moitié moins en 30 ans. Donc il y a des sous. Il y a des sous, on voit là clairement, comme dirait l'autre, qu'il y a un pognon de dingue, mais qu'il est accaparé par le capital et pas pour améliorer le sort des travailleurs. Alors ce qu'il est aussi intéressant de regarder dans ce PIB, c'est comment ça se passe dans les autres pays. Alors j'ai pris deux exemples. Alors tout d'abord la France. La France utilise 13,8% de son PIB au financement des retraites pour, en ce qui concerne les retraités, leur donner ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est ce qui touche à la retraite par rapport à ce qui touchait en activité, c'est en moyenne 70 à 75%, 13,8% du PIB. Mais on peut faire nettement mieux. L'Italie, par exemple, l'Italie consacre davantage de sous avec, donc, dans cette question de répartition des richesses avec le PIB pour la retraite, puisqu'elle dépense 16,2%, c'est-à-dire 3% de plus, du PIB pour les retraités, avec en plus un meilleur taux de remplacement. Alors c'est assez paradoxal quand on nous dit c'est 67 ans, oui, mais on oublie ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a d'autres moyens en Italie, d'arriver à un âge légal de départ en retraite, un meilleur taux de remplacement, puisqu'en Italie, le taux de remplacement à la retraite, il est supérieur à celui de la France. Hein, je répète, entre 70 et 75% en France, mais 79,5% en Italie. Donc les Italiens nous démontrent qu'ils sont capables de faire mieux. Mais on peut faire pire. On peut faire pire, et j'ai pris l'exemple du Royaume-Uni, qui utilise très peu des richesses produites dans le pays pour financer la retraite. Finalement, le chiffre de dépenses en Royaume-Uni est moins de la moitié en pourcentage de celui de la France. Il est de 6,2%. Donc, une proportion finalement d'utilisation des richesses pour les retraites qui est très faible. Et en même temps, et c'est d'ailleurs logique, un taux de remplacement, c'est-à-dire combien on va toucher à la retraite par rapport à ses anciens revenus, 21% seulement, c'est-à-dire près d'un cinquième. Donc les retraités en Angleterre, eh bien c'est quand même la grande tristesse, ils ne touchent quasiment rien sur un système de retraite qui serait censé devoir les protéger. Donc on voit à travers ça que la question politique essentielle, c'est comment on répartit les richesses. Et j'y viens d'ailleurs sur les propositions qui ont été faites en son temps lors du passage de la retraite à 62-64 ans pour montrer qu'il y avait d'autres solutions, et évidemment qui sont toujours valables aujourd'hui. Il faut d'abord dire que le financement des retraites, comme le financement de la Sécu en général, est d'abord victime des salaires bruts qui sont trop bas et qui ne suivent pas le niveau de l'inflation, puisque, comme vous le savez, les cotisations sociales sont proportionnelles au niveau des salaires. Donc, on a ce phénomène-là qui est considérable en termes d'impact pour la protection sociale, et aussi le développement des emplois précaires qui en rajoute finalement au sabotage de notre protection sociale. Avec cela, le fait que nous avons trop de chômeurs, et on nous demande de travailler considérablement davantage. Alors, il y a aussi les exonérations de cotisations qui sont importantes, hein. Quand on avait regardé à l'époque les 12 milliards de déficit qu'on nous agitait pour justifier le report à 64 ans, eh bien finalement, c'est quoi 12 milliards pour un système de retraite qui concerne tout le pays ? Alors j'ai regardé. Eh bien 12 milliards, ce n'est que 1/15 de la fortune personnelle de Bernard Arnault. 1/15, c'est-à-dire ridicule par rapport finalement à sa fortune personnelle à lui, mais il y en a d'autres, hein. On peut trouver les sous. Bernard Arnault, on lui supprime 1/15 de sa fortune personnelle, il ne s'en aperçoit même pas. Alors les solutions, il y en a. Je ne vais pas les citer toutes, hein, mais je vais en reciter quelques-unes. 5% d'augmentation de salaire dans le privé, on a parlé ces jours-ci d'une augmentation considérable du SMIC, eh bien 5% d'augmentation de salaire dans le privé, c'est 9 milliards de plus pour la branche retraite uniquement. 400 000 fonctionnaires en plus dans la fonction publique hospitalière, c'est le chiffre qui avait été annoncé en termes de besoins, eh bien en termes de rentrée de cotisation pour la protection sociale et seulement d'ailleurs pour la question de la retraite, c'est 5 milliards de plus. Supprimer ce qui existe toujours, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, qui est de près de 28%, c'est 6 milliards de plus pour le budget retraite. Donc rien que si on additionne ça, on a, j'allais dire, trop de sous. Alors trop de sous, certainement pas, mais ça suffirait déjà très largement à pouvoir rétablir la retraite à 60 ans. Il y a aussi ces 200 milliards d'euros annuels d'aide publique qui sont donnés aux entreprises sans aucun contrôle. Donc on donne des aides et on ne vérifie pas que finalement, notamment le crédit impôt recherche, par exemple, mais ce n'est pas le seul, sans aucun contrôle sur sa destination réelle, eh bien c'est plus de 10 fois les déficits que l'on nous a mis dans les oreilles à l'époque. Alors dans les solutions, il faudrait aussi cesser d'exonérer de cotisations sociales et dividendes, ce serait pas mal non plus, ça. Ça pourrait rapporter 14 milliards pour l'ensemble de la protection sociale. Donc, si on dit, je ne donne pas tout l'ensemble des mesures, mais rien que celle-ci, on a largement de quoi faire pour non seulement retourner à la retraite à 60 ans, mais pour améliorer l'ensemble de la protection sociale. Abaisser aussi l'âge de la retraite à 60 ans, il ne faut pas l'oublier, c'est faire des économies au niveau de l'assurance chômage, puisque on le sait tous, on a un nombre de gens qui, passés la soixantaine, se retrouvent au chômage, donc des économies pour l'assurance chômage, ils seront à la retraite, ils seraient pas aux assurances chômage, et c'est aussi de nombreux milliards d'économisés pour la maladie, puisque évidemment il n'y aurait pas d'arrêt maladie quand on est quand même malade, mais qu'on est en retraite. Donc là, on a aussi pour la protection sociale, que ce soit du côté de l'assurance chômage ou du côté de la maladie, des économies qui seraient réalisées, des économies qui sont importantes. En conclusion, on a toujours su depuis un demi-siècle réduire considérablement la durée du travail et en même temps prendre en charge de plus en plus de retraités dans notre pays. Il faut rappeler la 4e, puis la 5e semaine de congés payés, il faut rappeler les 35 heures, il faut rappeler le passage à la retraite à 60 ans aussi, hein, notre système a su absorber le double de retraités qu'il était après-guerre sans aucune difficulté. C'est la véritable question à se poser. L'évolution des richesses créées, ça va où ? Quelle est la répartition ? C'est ce que j'ai commencé à expliquer dans cette chronique. Donc prétendre qu'il faudrait travailler plus longtemps, ça n'a pas de sens dans la configuration de notre pays aujourd'hui. Qui plus est, sans oublier, j'en avais pas encore parlé, les millions de chômeurs qui réclament du boulot et qui n'en trouvent pas. Je rappelle que pour un jeune, c'est en moyenne à 29 ans seulement qu'un jeune arrive à trouver un emploi stable, seulement à 29 ans. Donc, il y aurait aussi à regarder de plus près, à embaucher nos jeunes et à laisser nos vieux, si j'ose dire, partir à la pêche et profiter d'une retraite bien méritée. Voilà ce petit rappel que je voulais faire en ce qui concerne la question de la retraite. Évidemment, par rapport à la situation politique aujourd'hui dans notre pays. Et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.